Bonjour, cette semaine, c'est un épisode de Cache tes secrets et je suis accompagné de Marwa.
Marwa.
Est-ce que je le prononce bien, Marwa?
Oui.
Parce que j'ai déjà entendu ton époux, le prononcer comme... Ben, je veux pas le prononcer comme lui l'a dit, parce que je sais pas si ça, je veux bien le prononcer aussi. Mais tu sais de quoi je parle?
Ouais, il dit okay. Marwa. Il le dit en arabe, en fait.
Ok. Les deux sont corrects, en fond.
Oui, c'est la même chose, en fait. Enfin, okay. Y en a un qui est en français, un qui est arabe. Il roule juste le R.
Je peux-tu l'essayer?
Vas-y.
Faut que je roule le R, c'est ça?
Pas okay, de stress, hein?
Un peu de stress, quand même, ok. Marwa.
Oui, c'est ça.
Que ça passe, ok.
Ben oui.
Ok, cool. Puis là, faudrait le faire avec tous les noms avec des R, c'est ça? Donc, comme Charles, faudrait le faire aussi, comme Charles.
Ben, ça dépend, parce que t'as aussi le son Ra en arabe.
Ok.
Par exemple, Rania, qui est un prénom, tu pourrais l'appeler Rania aussi en arabe, ce serait pareil.
Ah, ok. Tu roulerais pas ce R, là, quelque chose?
Non, parce que c'est pas un R, techniquement.
Ok. C'est un W, ou c'est un K.
Ouais, c'est genre une autre langue. Okay. Une autre lettre, pardon. C'est un Ra.
Intéressant. Ok, donc on est en compagnie de Marwa. Et Marwa, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les auditeurs, tu sais, dire d'où tu viens? Quelles sont tes origines, pour commencer?
Ouais, grosse question, ça, Charles. Ouais,
je commence fort, tu trouves?
Ah ouais, dès le début d'épisode...
Non, est-ce que tu veux qu'on commence avec... Qu'est-ce que tu te sentirais plus à l'aise, qui serait moins...
Non, mais je vais te répondre, mais c'est juste...
Non, mais c'est bon, je le prends en note, c'est vrai.
C'est pas une réponse simple. Déjà, quand on me demande d'où tu viens...
Ouais, moi, je le réponds tout le temps en deux mots.
Tu dis quoi?
Je dis, je suis d'origine thaïlandaise, puis je suis né ici.
Ah, ok.
Simple as that.
Ok, ben tu vois, moi j'ai un temps de réflexion d'où je viens, le pays où j'étais avant d'arriver au Canada, d'où je viens, la région d'où je viens, où je suis née. Donc j'ai tout le temps un moment de réflexion. Et ça va dépendre de à qui je suis en train de parler en fait. Mettons, une personne originaire de France me dit d'où je viens, ben, je vais comprendre ma réponse, c'est plus la Franche-Comté. Mais des fois, y a des gens, quand ils me disent d'où je viens, ils veulent savoir l'origine de mes parents.
Ils veulent tout savoir, là, ouais. De la racine. ok,
donc, c'est ça. Bah, d'où je viens, écoute...
c'est une grosse question maintenant que tu l'as présenté ainsi, parce que moi, j'avoue que c'est gros, ouais.
Écoute, avant d'arriver au Canada, j'étais en France. J'ai grandi en France. Je viens de Franche-Comté, c'est la région où on fait du comté, le meilleur fromage, et je suis née en Algérie.
Ok.
Et j'ai quitté quand j'avais genre 2 ans, je m'en rappelle pas.
Ah pour vrai? Ok, donc t'as aucun mémoire, ça, t'étais bébé. Là.
Non, c'est ça, j'étais bébé.
Mais est-ce que tu te rappelles des choses, c'était quand t'étais bébé? Parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont capables de se rappeler de leur mémoire de bébé.
Non. Ça peut-être. Saïn, des fois, il dit des trucs. Il dit, ouais, ah ouais, je me souviens une fois, j'avais 5 ans. Et il te dit un truc super précis.
Okay.
Et moi, il me raconte des trucs comme ça. Je suis comme, mais il sort d'où, ce gars? Je suis pas capable de dire, j'ai fait quoi la semaine dernière?
Ouais, exact. Pareil. Moi non plus. All right. C'est ça, dans tes origines algériennes, qui a immigré en France, puis après qui a immigré au Canada?
Ouais. C'est ça. J'ai habité quelques mois à Madrid. J'ai fait un échange pendant mes études. C'était cool aussi.
Comment c'était ça? T'as étudié là-bas, c'est ça?
Ouais, j'ai étudié là-bas un semestre. Donc j'avais des cours en espagnol et en anglais.
Donc tu te débrouilles bien en espagnol?
Oui, je me débrouille bien.
C'est quoi ton insulte préférée?
Ben, en vrai, j'utilise jamais des insultes en espagnol parce que l'espagnol...
Ou en français, ou en anglais. C'est quoi ton insulte?
Une insulte préférée? Hein? Je pense que... Putain.
Putain, ouais.
Ouais, c'est genre bon, le truc qui sort automatique. Putain. Ou alors, des fois, ça va être genre... Hra. C'est merde en arabe.
Ah, nice.
Tu vois, genre... Hra, c'est par exemple... moi, je suis hyper maladroite. Okay. Donc, mettons, je suis en train de... Je sais pas moi, vider des lentilles dans un contenant. Mm-hmm. Ben, je vais renverser à côté et puis il y aura la moitié du paquet de lentilles que j'aurais fait tomber, tu vois.
Okay, ouais.
Là, c'est un contexte où je vais dire khra.
Khra. Je pense que je le prononce mal.
Khra.
Ok, merci. Je veux pas essayer.
C'est un mot difficile à prononcer.
Ouais. Puis là, ça veut dire merde dans le fond.
Ouais, c'est
okay.
ça.
Ok, ouais, je comprends. Ça serait la réaction que j'aurais aussi. J'aurais dit oh shit.
Ouais.
Mais c'est ça, donc t'allais dire qu'en espagnol, il n'y a pas d'insulte qui t'intéresse parce que tu trouves que c'est une langue qui paraît pas méchante, quoi, ou...
Le français et l'arabe algérien, c'est deux langues avec lesquelles j'ai grandi, dans lesquelles je m'exprime dans des contextes en fait quotidiens, tandis que l'espagnol et l'anglais, oui, je les utilise aussi dans des contextes quotidiens, quoique l'espagnol un peu moins, mais c'était quand même plus des contextes genre professionnels ou d'université, donc c'est pas trop des contextes où tu vas sortir des insultes.
Puis est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Quel genre de travail? Ou ça c'est trop large, je devrais plus. Quel est ton travail en ce moment?
Je travaille sur l'équité territoriale à Montréal. Pour faire court. Tu veux en savoir plus?
Oui, s'il vous plaît, parce que mon silence en a dit long.
Dans le fond, j'essaye de faire en sorte qu'on tienne compte de l'équité territoriale dans nos réflexions, dans nos plans et programmes qu'on peut développer à Montréal. Et par l'utilisation de données probantes, j'essaye de faire en sorte que on ait des justifications aussi pour, par exemple, mener des projets. Mettons à Montréal, il y a des zones, des quartiers et des arrondissements même qui ont historiquement manqué d'amour. Et l'idée, c'est que en tenant compte de l'équité territoriale, on aimerait faire en sorte que ces quartiers-là puissent connaître un rattrapage, ces quartiers, ces zones géographiques, pour que dans le fond, la qualité de vie à Montréal, elle soit un peu partout bonne en fait, peu importe où
Ok,
tu es
donc
situé géographiquement.
c'est ça l'équité, c'est que ça soit égal pour tout le monde. C'est pas qu'il y ait comme du favoritisme pour un quartier en particulier dans Montréal, c'est ça?
Ben, c'est pas forcément égal parce que ça va dépendre, tu sais, mettons, dans certains arrondissements, t'as une population beaucoup plus importante que dans d'autres. Donc, au niveau des services, il va falloir peut-être plus de services dans l'arrondissement qui est plus dense, où il y a plus de monde, et moins dans celui où il y a moins de monde. C'est pas une question d'égalité, mais
De
d'équité dans le fond.
dans équité, c'est pas égalité. Ok. C'est juste que ça soit plus équitable, dans le fond, que ça soit plus fair, plus juste.
Exact.
Ok,
Ouais,
je comprends, je
exact.
comprends.
Exact. Donc c'est
Ouais.
chouette.
C'est chouette. T'as réussi à faire une différence. Maintenant, t'as un quartier qui manquait d'amour, qui a reçu l'amour nécessaire.
Non, est-ce que j'ai réussi à faire une différence? Clairement pas. En vrai, de vrai, de vrai, je suis une goutte en fait
C'est
dans
ce que tu
l'océan
ressens, ouais.
de... Je me dis au moins je fais quelque chose qui correspond à mes valeurs, quoi. Dans le fond, les zones géographiques où ça va moins bien, où la qualité est moins bonne, bah, c'est aussi souvent des zones géographiques où on a plus de personnes pauvres, plus de personnes immigrantes, plus de situations sociales en fait qui sont compliquées. Et ce côté social est, enfin, je trouve moi personnellement souvent oublié dans nos réflexions, tu sais, mettons, quand on va parler de développement durable, là, le mot buzzword, ça va être surtout l'environnement, je sais pas quoi, je sais pas quoi, mais on oublie souvent le côté social et j'ai l'impression que les gens oublient parfois que il n'y a pas que le milieu de vie qui compte et ce qui nous entoure, il y a aussi les humains en fait, il y a aussi les gens.
Enfin, c'est pas juste l'environnement dans lequel sur lequel on habite puis le quitte, sachant très bien que ça va brûler du jour au lendemain, mais il faut penser aux habitants qui vivent sur cette terre qui vont prendre en feu éventuellement, c'est ça?
C'est ça, parce que, tu sais, comme parfois t'entends certaines personnes écolo quand elles parlent, c'est genre, ah, les problèmes sociaux, c'est pas si grave ou c'est pas si important parce que de toute manière, la terre elle brûle et il faut qu'on se concentre sur la terre.
Sur la terre,
C'est ça, mais ce discours-là, c'est le discours aussi de personnes qui sont pas dans des situations en fait de
exact,
vulnérabilité.
exact, ouais.
Et qui vont essayer de répondre à quelque chose de très long terme, alors que déjà là, maintenant, on
Quelqu'un
a
qui
des gens
souffre,
qui
là,
souffrent.
ouais. dans la rue là maintenant.
Ouais.
C'est pas dans la rue, mais tu sais.
Bah oui, dans la rue aussi, toi, hein. Les personnes en situation d'itinérance, à chaque fois, enfin, même comme Saïd disait la dernière fois, c'est fou qu'on se soit en fait habitué à ça, qu'on considère ça comme normal maintenant de marcher dans la rue et voir une personne en souffrance en fait sur le trottoir qui vit dehors et ça fait partie de la société, genre.
On l'accepte, on est là comme ça. J'ai changé de spot, ça a l'air d'être un meilleur spot pour Katie. Tu dis pas comme ah, oh, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ou comme ah, oh, c'est pas normal qu'il soit là. J'avoue,
Ouais.
C'est une question, c'est ma réaction en effet. En normal, je me dis comme ah, oh, bonjour, sans-abri. Mais j'ai pas de. Ah oui, exemple, comme avec quelqu'un qui souffrait d'itinérance, est-ce que tu le regardes dans les yeux puis tu lui salues habituellement ou tu évites son regard? Parce que je sais qu'il y a des gens qui, justement, ils essaient de comme fermer un œil à ça. Tu es comme, oh, non, je le vois pas. Si je le regarde pas, il me voit pas. C'est comme s'il était invisible, tu comprends?
Ça dépend. Ouais.
Ça dépend.
J'essaye vraiment d'avoir du contact. Du contact humain. Et puis, parce qu'en plus, souvent, ces personnes, ben, en fait, elles sont comme nous tous. Mm-hmm. Juste un sourire, ça nous fait plaisir. Tu sais, même si t'as pas de monnaie, parler à la personne, lui dire oh, désolé. Non, en vrai, en y réfléchissant, j'ignore pas les gens. Mm-hmm. Je fais pas comme si je les voyais pas.
De la tête, au moins
Ouais, au moins quelque chose, au moins.
Non, comment on dit? Pas que t'affirmes leur présence, mais comme tu prends.
Tu reconnais.
Exact, voilà, tu reconnais. Vu qu'on a parlé de nervosité, est-ce qu'il y a des choses qui te rendent nerveuse dans la vie?
Des choses qui me rendent nerveuse, et franchement, plein de trucs, hein. Les échéances, le conduire.
Conduire?
Conduire, souvent, ça me.
Ça te rend un peu nerveuse?
Ouais. Ouais, c'est ça. Nerveuse, stressée, pas nerveuse, genre fâchée, okay, en colère.
Ah, je savais pas que ça allait utiliser comme pour ça aussi, nerveuse, fâchée. Moi, nervosité, je pense que c'est vraiment dû au stress, le kit.
Ok.
Mets-le dans une phrase, voir la nerveuse de la définition fâchée.
Comme... Quoi?
Mais je sais pas, t'as dit que nerveuse, ça voulait aussi dire fâchée, c'est ça?
Oui, enfin, okay. Après...
Comment on mettrait dans une phrase comme « il est nerveux », ça veut dire qu'il serait fâché, dans le fond? Tu comprends ce que je veux dire?
Moi, ça, il est nerveux. Pour moi, ça veut dire c'est un gars qui peut s'énerver vite.
Exploser,
ouais.
Okay.
Quelqu'un de volcanique, okay. Un peu.
La mèche courte, dans le fond, là, comme un peu.
Bah, la mèche courte, tu connais pas.
Je sais pas, de bon, je comprends pas. Non, j'essaie sincèrement de comprendre tout ça. Mais c'est bien correct. Donc, quelqu'un de nerveux, c'est comme qui est gentil, quoi. Il est prêt à l'action. Disons qu'il y a un accident près sur l'autoroute, puis là, il voit ça, il débarque sa voiture, puis il va voir si tout le monde est en vie, puis il fait le CPR, puis tout ça, quoi. Ça, il est nerveux, comme il est tout le temps...
Non, il est nerveux, en mode... c'est quelqu'un qui va s'énerver, qui va démarrer au quart de tour, caleçon chaud.
Ah, ok, caleçon chaud.
C'est pas nerveux, calme, c'est un nerveux, il démarre vite.
Ok.
Je pense que
c'est hyperactif, une... là, comme...
Non, pas hyperactif, mais j'arrive pas à trouver le mot.
Bon, ok, j'ai de la misère à comprendre ça.
Bah, je pense que c'est une expression qu'on utilise en France, honnêtement.
Peut-être, ouais.
C'est un nerveux, ouais, je pense, c'est ça.
C'est un nerveux.
C'est un nerveux. Bah, c'est ça, c'est une personne impulsive.
Ok. Bon, mais la manière que moi je te parlais, c'était en plus stressé. Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent stressé? Tu disais que c'était ça. La conduite,
ouais.
C'est quoi? C'est conduire sur l'autoroute qui te rend stressé ou plus sur les petites routes ou te stationner? Est-ce que t'es bonne à te stationner?
Non, je suis nulle.
Les parallèles ici à Montréal, tu les maîtrises comme
j'suis
une chef.
Nulle,
hein?
Je suis nulle. Ah, des fois, j'appelle Sarine. J'appelle, je lui dis, s'il te plaît, viens garer, j'en ai marre. Surtout quand en plus on a un van là.
Ouais,
les vans GMC là. Oh là là, fou.
Un minibus, votre affaire.
Non, t'abuses, mais. Pour moi, oh là là, ouais. Non, ça va.
J'avoue.
Mais dans le fond, la voiture, c'est comme si, je considère que toutes les autres voitures autour de moi et moi-même, dans un véhicule, dans le véhicule, on représente un danger.
Ok, donc dès qu'on est sur la route dans une voiture, on est un danger.
Bah, toutes les voitures autour de moi sont un danger. Moi, je suis aussi un danger.
Qui n'est pas toutes les voitures dans l'univers. Là.
Non, non, non.
Okay, je comprends. Au moment que toi, tu es conduit, puis t'es dans les alentours, dans ta zone de confort, disons.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Parce qu'en fait, j'ai une cousine...
Non, t'es hyper alerte, dans le fond, quand tu conduis. On dirait que t'es comme, OK, ça pourrait me heurter, ça, faut pas que je fasse attention à ça.
Je suis hyper alerte, je sais pas trop, parce qu'en même temps, on dirait qu'il y a plein de trucs que je vois pas des fois.
Il ouais, y a beaucoup de choses à voir, à vérifier, puis à être vigilant pour, là, c'est sûr.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, en vrai, je conduis tranquille, hein. Mais c'est juste, ça me fait chier de conduire, ouais,
non,
quoi.
Je comprends.
Je laisse quelqu'un d'autre.
C'est bien correct. Puis t'allais dire quelque chose avec ta soeur, je pense.
J'allais dire, ma cousine, c'est pas du tout drôle ce que je vais dire. Ma ah, cousine, drôle. Elle s'est faite renverser quand elle était enfant. Elle avait genre...
C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle.
Elle avait genre 5 ans ou un peu moins. Et okay. Je pense que, ouais, j'avais vu ses photos et tout. Et ça m'a trop traumatisée depuis.
C'est pour ça que... Tu l'as vu... Enceinte dans les photos, quoi? Je comprends pas.
Elle était pas enceinte, mais elle était genre à l'hôpital. Elle était dans un espèce de lit, comme un lit de bébé. Et elle avait une espèce de... Elle avait du bandeau, en fait, tout autour de la taille.
Okay.
Et c'était rouge, genre.
Ok, c'était le sang, le rouge, j'imagine.
On ouais, assume. Le... Ouais, en tout cas. Okay. Ouais.
Ah là là. Puis elle avait quel âge, ta cousine?
C'était elle avait même pas 5 ans.
Oh, ok, alors ça c'est encore moins drôle, je veux dire, ouais. Encore plus drôle. Non, mais j'avoue que c'est navrant, puis elle s'en est sortie, c'est ça?
Ouais, ben en fait...
Ou jamais à 100%?
Si, elle s'en est sortie, elle était en Algérie quand elle s'était faite renverser, ses parents vivaient là-bas, et en fait, ils leur ont dit, les médecins, que ben, son pronostic vital était engagé, ou qu'elle aurait des séquelles lourdes, et ils n'avaient pas suffisamment... la technologie entre guillemets à l'hôpital ou je sais plus trop quoi, et du coup ils sont venus s'installer en France parce que sa mère était française,
mm-hmm.
pour qu'elle puisse être
hospitalisée,
c'est ça, et ouais, ça a pris vraiment pas mal d'années, et puis maintenant c'est comme si de rien.
Oh, tant mieux.
Physiquement en tout cas.
Ouais. Mentalement, c'est sûr qu'il y a peut-être des séquelles aussi, on sait jamais, tu sais.
Ouais, c'est ça, je sais pas.
Dans la rue, puis t'entends une voiture comme klaxonne très fort, tu viens avoir un choc PTSD, tu sais, qui sait.
Bah, elle, non. Elle, paradoxalement, elle est très chill en voiture.
Ouais, mieux,
elle a
mieux.
Pas du stress.
Wow. Non, c'est tout le contraire pour elle, finalement.
Ouais.
Alors, tu m'as raconté un peu tes origines, tout ça, mais est-ce que maintenant que t'as immigré ici à Montréal, au Québec, t'as-tu une chose préférée que t'aimes bien de Montréal ou une chose que tu détestes aussi de Montréal?
Je déteste les logements à Montréal, okay. Et la qualité des routes.
La qualité. T'aimes la qualité? Ah, c'est les deux choses que tu détestes?
Ouais.
Ok. On va explorer ça. Donc, pourquoi la qualité des logements?
La qualité des logements... Écoute, je vais faire ma française là, hein, mais après peut-être c'est moi qui ai eu vraiment pas beaucoup de chance, mais j'ai fait plein de logements à Montréal.
Mm-hmm.
Je trouve que c'est souvent des pièces petites pour des loyers chers, et j'ai tout le temps eu des problèmes.
Tu trouves? Oh, ouais. Chanceuse.
J'ai tout le temps eu des problèmes, genre. Je t'ai raconté tout à l'heure, on a eu dans l'immeuble là une infestation de cafards et de punaises de lit. Infestation de cafards, c'était déjà arrivé dans un autre immeuble. On a eu aussi des souris,
oh.
Où on entendait les voisins faire énormément de bruit au-dessus de nos têtes et sur les côtés. Bref, du coup, ouais. Les c'est... logements à Montréal, fouf.
Non, ça te dérangerait pas, toi, d'habiter à l'extérieur de l'île de Montréal, si tu pouvais?
Si, il n'y avait pas d'enjeu en termes d'accessibilité et de ressources de proximité, ça ne me dérangerait pas.
Ok.
Mais là, je suis tellement fatiguée des logements à Montréal que je commence à y réfléchir.
Ah ouais, pour vrai, sincèrement?
Ouais, okay. Quitter et...
Ben,
je sais pas.
Comme tu disais, tu m'as raconté tantôt, ce que je te dis aux auditeurs.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, là, actuellement, ton appartement, pas ton appartement, je devrais dire, ton immeuble, parce que c'est seulement ton appartement, c'est comme, vous êtes des petits crottés, tu sais. C'est ça, est infesté de cafards, votre immeuble, dans le fond.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Puis ben, le propriétaire, lui, il fait pas grand-chose pour régler la situation. Lui, il est plus « Donnez-moi vos chèques pour le loyer. Arrangez-vous avec les cafards. » Mais il a appelé un exterminateur, mais comme apparemment, c'est pas parti. Puis il faut falloir qu'il passe 2, 3, 4, 5 fois, tu me disais? 10 fois?
2 fois.
Ah, 2 fois, ok, j'exagère, ok.
Mais tu vois, là-dessus, le proprio... S'il te plaît, il y a un huissier de justice qui est venu sonner chez nous, là, en juillet. Okay. Et en fait, il y a eu une mise en demeure contre le proprio parce qu'il ne payait pas le gaz depuis des mois. Et coup, depuis, on verse 25% du loyer aux gens du gaz et le reste au proprio.
Ah, pour que les gens du gaz se fassent rembourser.
C'est ça.
Wow. Mais c'est, ils ont dû faire recours à un huissier pour vous demander à vous de payer ça, dans le fond, tu sais. Parce que le propriétaire n'est pas capable de payer ses propres factures lui-même. Waouh!
Ben, parce qu'en fait, c'est pris dans notre loyer. Uh-huh, notre loyer, il paye le gaz. Donc, il recevait le proprio l'argent du gaz. Mais okay. Il ne payait pas le gaz.
Ah! Le petit Tana.
Je t'ai dit, c'est un enfoiré. Hein?
Un vrai enfoiré.
Ah ouais. Hein?
Putain. Waouh! Alright, on a parlé des cafards et le kit, puis ça me fait réaliser, parce que là, tous ces cafards-là, ils sont faits tuer par l'exterminateur, ou une bonne partie en tout cas. Puis là, ben, ça m'amène à ma prochaine question, c'est est-ce que toi, t'as peur de la mort?
Ben, honnêtement, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'était non. Donc je vais dire non. Je pense qu'avant, oui. Mais bon, après, tu sais, c'est sûr que je dis ça là, mais si ça se trouve, demain, il m'arrive un truc et je vais mourir dans une semaine, j'aurai plus le même discours. Hein.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est bien que tu relativises les faits, c'est bien.
Ben oui, quand même. Donc,
mais dans l'immédiat, disons que là, tout est en santé, tu le quittes. Faire face à la mort, quand tu le regardes tel que t'es maintenant, ça ne t'effraie pas.
C'est ça.
Parfait.
Avant, ça m'effrayait beaucoup.
Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'effrayait dernièrement, dans le passé?
En fait, j'avais peur de l'après, parce que j'ai toujours cru en après.
Ah, ok, donc c'était quoi l'après pour toi? C'est quoi qu'il y avait à l'après? Moi, je sais pas, je le connais pas ton après.
Ben, je pense que avant, je l'imaginais beaucoup comme... Je lui associais beaucoup de souffrance, somehow.
Donc, dès que tu meurs, tu souffrais, c'est ça, un petit peu?
Ouais.
Ok, mais il y avait de la souffrance dans la situation que t'étais. Okay.
Ouais, c'est ça, il y avait de la souffrance dans l'idée de la vie après la mort et de l'angoisse aussi, parce que de l'inconnu, parce que la fin en fait de tout ce que t'as connu et vers quoi tu vas en fait. Donc ouais, ça m'effrayait quand même beaucoup. Puis aussi, religieusement, moi, je pense que je peux dire que j'ai toujours été une personne croyante. Et j'avais peur aussi de, ah, dans le fond, si j'ai pas bien agi sur terre, je vais aller en enfer ou je vais être puni ou peu importe.
Donc, il fallait être une bonne personne pour pouvoir vivre la prochaine partie de la. Je sais pas si on peut dire de la vie, la prochaine partie de ma personne, I guess, je sais pas.
Ouais.
Parce que c'est quoi, comment on appelle ça quand tu meurs, c'est comme, disons qu'on admet, on sait assurément qu'il y a quelque chose après la mort, mais on dit comme ok, on va appeler ça le paradis ou l'enfer, mais
l'après-mort.
Ah voilà, c'est ça le mot que je cherchais, donc ce serait l'après-mort.
Ouais,
c'est ça, okay. Ouais. Comme pense. Un autre chapitre, ça s'appelle l'après-mort.
Ouais,
l'après-mort, c'est simple.
Ouais, donc ouais, je pense qu'il y avait ce côté-là religieux aussi qui jouait beaucoup dans la balance, parce que j'étais persuadée que peu importe ce que je faisais, bah, ça allait jamais être assez. Parce que tu sais, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Non, pour elle, je connaissais pas cette.
Ouais, c'est une expression. Et du coup, c'est le genre d'expression, moi, qui m'ont fait trop psychoter quand j'étais plus jeune.
Ah, ok. Parce que, comme exemple, t'ouvres la porte à quelqu'un, t'avais une bonne intention, mais tu te dis, ah, mais c'était pas suffisant, quoi, c'est ça?
Non, c'est genre. Tu. T'as l'intention de faire un truc bien. Mais en vrai, tu fais de la merde. Après, oui, par exemple, on est sur la thématique religieuse.
Okay.
Mettons, par exemple...
Okay. T'es game, parfait. On parle de la religion, allez.
Parce que j'ai dit, non, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mettons, par exemple, je fais un truc que je crois qu'il est bien fait et c'est comme ça qu'il faut le faire, n'importe quoi, par exemple la prière.
Ok, la prière, ok.
Et en fait, finalement, puis ça c'est la vision que j'avais genre avant, où je crois que je fais ça bien, mais en vrai, je fais ça trop mal et c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc peut-être j'aurai des mauvais points parce que en vrai, j'ai mal fait le truc.
Ok, je comprends. Non, c'est plus comme t'as pas bien fait la prière, qu'il y a un rituel, une routine, une manière d'agir, que tu aurais mal agi dans la manière, que là, t'as des points de démérite, c'est ça?
Oui, alors que ça n'a aucun sens en réalité.
Non, j'avoue. C'était plus toi, Vagas, qui était dur envers toi-même. Tu te dis, je peux faire mieux que ça pour. Je sais pas, peut-être.
Ouais, et puis, je pense que j'étais aussi vraiment jeune. Donc, je me posais pas les bonnes questions non plus, je pense.
C'était quoi les questions que tu te posais à l'époque, tu t'en fais dessus?
Ben, en fait, c'est comme si quand t'es enfant, tu comprends pas trop la complexité des choses. Donc, c'est genre noir ou blanc, c'est oui ou non.
Bon ou mauvais.
C'est ça.
Okay. Y a pas de gris.
C'est ça.
Ah, il a peut-être fait une mauvaise action parce que pour nourrir sa famille, exemple. Tu sais, non.
Ouais, okay. C'est ça.
Eh ben. Plus ça m'amène la question de, comme, on a parlé de la mort, mais tu t'es parlé de religion et de croyance. Donc, est-ce que toi, t'as dit que t'étais quelqu'un de croyant, c'est ça?
Oui.
Puis maintenant, est-ce que tu pratiques ces temps-ci?
Ben, je pense que ma pratique de la religion a évolué. Puis maintenant, même, j'utilise moins le terme de religion, mais plus de spiritualité ou de foi. C'est sûr que le sens aussi que je donne à la religion a changé, ou même la définition en fait du concept de ce qu'il veut dire pour moi. Avant, quand j'étais plus jeune, je faisais pas vraiment de distinction en fait entre la foi, la religion. Je pense que je comprenais pas aussi l'idée de la religion, c'est aussi une institution, c'est okay, aussi c'est des personnes et tout.
J'avoue.
Et maintenant, moi j'ai changé de point de vue là-dessus, mm-hmm. et je vois, enfin, okay. j'ai compris plus de choses en fait de moi.
Oh.
Et donc, j'ai changé de point de vue sur certaines choses. Ouais, nice. J'ai aussi appris.
Qu'est-ce que t'as appris? Peux-tu me l'apprendre à moi?
Oui.
Tu peux apprendre aux auditeurs aussi.
Ben après, c'est sûr que c'est sur toutes les questions de religion. Il y a autant de... Par exemple, moi, je suis musulmane. Pour moi, il y a autant d'islam que de personnes qui le pratiquent. Parce que...
Ça veut dire quoi, ça, déjà?
Ça veut dire que moi,
rien du tout, là.
La façon dont je me vis en tant que musulmane, dont je vis ma foi, ma religion aussi, j'utilise toujours ce terme quand il est approprié, elle m'est personnelle, en fait. C'est à ma manière, quelqu'un d'autre, ça va être une manière un peu différente, et même entre deux personnes très proches, mettons... on va pas faire exactement les mêmes prières. Je parle pas de la prière là de 5 fois par jour, mais plus comment on va communiquer par exemple avec Dieu, etc. Okay, ça va être différent en fait entre chaque personne. Puis tout ne va pas résonner de la même manière identiquement chez tout le monde. Donc c'est ça pour moi. Moi je vois ça comme ça.
C'est intéressant.
C'était quoi ta question au départ?
C'était croyante.
Ah, ok. Ok,
bah. Puis au final, t'as dit que t'as mieux utilisé les termes de foi, spiritualité, puis que ça a évolué au fil des ans, t'as une nouvelle philosophie, puis maintenant, c'est comme avant, tu voyais comme une institution du bon au mauvais, maintenant, c'est plus nuancé. Mais, puis que c'est ça, c'est que t'as ta propre vision de la spiritualité, puis c'est pas obligé d'être de la même manière pour les prières, si j'ai bien compris. C'est sûr que j'ai raccourci un peu.
Oui, t'as bien compris avec des raccourcis. C'est qu'en fait, maintenant, je me positionne plus dans une foi personnelle, en fait, qu'une foi qui serait collective.
Avant, je parlais à la prière, exemple.
Bah, la prière, c'est juste un petit exemple, mais avant, je croyais que pour croire juste, il fallait que je croie comme tout le monde.
Ah, ok, il fallait que tu sois un, pas un mouton, mais comme un autre.
Que j'adhère à la pensée, en fait. Ouais, ou du groupe, en fait, qui m'entoure. Parce que même là, il y a différents courants de l'islam, il y a différentes écoles. Puis, c'est le fait aussi d'avoir étudié un peu plus le Coran, m'être posé plus de questions sur la religion, qui a fait que j'ai changé aussi de perspective là-dessus.
Nice. Puis, est-ce que t'as... Là, on a parlé de bon, mauvais, puis ça m'a fait penser, est-ce que t'as déjà fait des... T'as eu des aventures dans ta vie que, comme tu dis, oh boy, je l'ai échappé belle, tu sais, ça aurait pu être beaucoup plus intense que ça, comment ça a fini.
Oui, c'est sûr, comme tout le monde, je pense.
Je sais pas. Essaye-toi, voir. Raconte-nous une histoire, puis on va se dire, ah ouais, t'as raison, ça arrive comme à tout le monde. Oh boy, non, ça arrivera pas à tout le monde, ça.
Oui, mais les autres ont d'autres expériences que moi, j'ai pas eues.
Ça, c'est certain, c'est vrai.
Bah tiens, premier truc qui me vient à l'esprit, quand j'étais ado, en fin de semaine, je m'amusais à sauter des ponts.
Des ponts?
Ouais.
Donc, tu sautais du pont dans l'eau, quoi?
Ou... Ouais, c'est ça. Okay. Je sautais du pont dans l'eau avec mes amis, puis... Quand j'y pense, c'était vraiment pas sécuritaire et ça aurait pu vraiment mal finir. Déjà, la première fois, je pense, ou peut-être, je sais plus, mais en tout cas, une fois, je vais pour sauter à un pont, puis j'ai une amie qui allait pas sauter. Et faut savoir que je traînais beaucoup avec des garçons, et moi, dans ma tête, c'était aussi, c'est no way que je choke, parce que hors de question qu'après on dise, ah, elle fait pas parce que c'est une fille, ou je sais pas trop quoi. Donc, okay, ouais. Limite, des fois, j'en faisais plus.
Nice. Okay.
Comme sauter, par exemple, j'étais la première à sauter. Donc, j'étais la première à sauter, et il y avait une amie qui sautait pas, et je lui dis, regarde là, est-ce que c'est bon pour que je saute? Parce que j'avais vu que sous le pont, il y avait des panneaux qui dépassaient. Donc, il fallait absolument pas que je me prenne les panneaux, sinon ouais, j'aurais pu. Visage, ouais, dans le corps entier, ouais, tu sais. Et donc, j'ai dit, ouais, c'est bon, je peux sauter. Elle me dit, oui, c'est bon, et elle filme.
Ok.
Et moi, je saute. J'arrive dans l'eau, tatata, tout va bien, je sors. Et là, je vois la vidéo qu'elle a filmée, et j'ai trop choqué, en fait, parce que j'étais. À vraiment un rat de me taper un des fameux poteaux, alors que j'avais demandé à mon ami de vérifier si j'étais bien positionnée. Puis je pense aussi que quand j'ai sauté, j'ai peut-être pas sauté tout droit ou je sais pas.
Oh ouais.
Mais c'est ça, si ça se trouve, j'aurais pu finir paralysée, quoi.
Ouais, j'avoue, cogner, puis là,
c'est ça.
Ça aurait été rough.
C'est ça, donc
là... T'es pas capable de nager dans l'eau, on n'est pas capable de te repêcher, glou glou glou, tu meurs noyé aussi.
Ouais. Ouais.
Il aurait pu arriver plein de choses terribles.
Genre. Ouais. En plus, il y a quelques années, il y avait justement un jeune qui s'est noyé, en fait, comme ça.
En faisant ça, de sauter des ponts.
Ouais.
Ok, donc tu vois, ouais. Moi, j'allais dire que c'est pas une histoire commune, mais là, si tu me dis qu'il y a un petit qui est mort, puis tu as lu ça dans les nouvelles. Alright, quand même. Donc... Je dis pas que c'est une bonne nouvelle, mais. Donc, si vous sautez dans les ponts. Vérifiez que les alentours, c'est possible, que l'eau est assez profonde, qu'il n'y a rien qui va vous empêcher de sortir à la surface, que le courant n'est pas trop fort, tu sais, je sais pas.
Ouais, le courant. C'est important, aussi, le courant.
Est-ce que t'es une bonne nageuse?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout?
Vraiment pas.
OK. Mais tu as un truc que j'ai entendu dans la conversation, c'est que t'as dit, comme t'avais, la plupart de tes amis à cette époque-là, c'était des garçons, c'est ça? Puis tu disais que t'essayais d'en faire un peu plus qu'eux pour te prouver comme gars, je suis aussi bonne que vous, c'est ça? C'est pourquoi tu faisais ça?
C'est pas pour me prouver à moi, mais...
Prouver à eux, alors?
Ouais, je pense que c'était plus prouver à eux. Je voulais pas, en fait, que... Comme j'étais une fille... qu'on jette la pierre, en fait, sur les filles et qu'on dise « Ah, les filles, elles sont pas capables. » Comme si, dans ma tête, je représentais, en fait, les filles en étant une fille dans une bande de garçons. Donc, je voulais pas...
Tu voulais pas stéréotyper toutes les femmes juste par
tes actions? Ouais, je voulais... Ouais.
Ben, ça a du sens, quand même.
Et je voulais pas...
C'est dommage aussi, quand même. C'est plate que t'as dû ressentir ça, I guess.
Ouais, je dis ça, mais je pense que je voulais pas aussi qu'on m'infériorise ou... parce que ce truc là aussi de dire hein, c'est une fille, tu sais, c'est aussi l'idée de dire que les filles elles sont moins fortes, bonnes, moins bonnes, etc.
Moins drôle, moins intelligente, blablabla. Okay,
ouais, non, moins intelligente, c'est pas vrai. On dit plus, plus intelligente.
Non, ça, c'est indéniable. Ça, c'est... Ouais, j'ai rien à redire là-dessus.
C'est une blague.
Non, je sais, j'ai adoré. Donc, c'est ça. Puis, d'où ça vient, tu penses, ces comportements-là? C'est vraiment de tes amis ou c'est parce que, exemple, dans ta famille, t'as plusieurs frères, t'as plusieurs sœurs, t'es une enfant unique?
J'ai deux frères et une sœur.
OK.
Et je suis la Benjamine.
Benjamine, ça veut dire la plus petite?
Ouais.
La cadette, dans le fond?
C'est ouais.
Ça? C'est la même chose? Ouais, j'imagine.
Attends, j'ai un doute.
Parce que vous êtes quatre personnes. Alors, toi, t'es la plus jeune. Après, il y a un de tes frères, ta sœur.
Il y a moi.
Il y a toi.
Après, on monte. J'ai un frère. Après, on monte, j'ai une sœur.
OK.
Après, tout en haut, j'ai un autre frère. En ordre.
Et après, il y a papa, maman.
Ouais, c'est ça.
Toujours en vie, en bonne santé?
Ouais.
Alright, ça c'est cool. Tu t'entends bien avec tous les membres de ta famille? Ah ouais,
c'est... I guess, oui. Ouais, je pense que ça dépend vraiment aussi de... C'est quoi ton critère de ce qu'est une bonne relation? C'est quoi ton seuil? Parce que des fois, quand je dis que je m'entends pas... Uh-huh. Et que après je dis des trucs sur eux, ils sont comme ah mais vous avez quand même une relation, etc, etc. Je suis comme bah oui, c'est quand même mon frère ou ma sœur.
Mmh, ok, ouais, je crois. Tu peux les abandonner dans la misère là. Comme, même s'ils font chier, tu vas être là pour eux si tu veux.
Oui, c'est ça. J'ai un frère avec qui je m'entends super bien, mais les deux autres c'est un peu plus compliqué, mais ça reste mes frères et sœurs, tu vois.
Exact, c'est ça. Tu peux t'en échapper.
Non, c'est ça. Je vais quand même les appeler de temps en temps.
Puis là, vous parlez, vous faites un blabla de surface, comment ça va? Le travail va bien?
Ouais, c'est ça.
La route n'est pas difficile ces temps-ci?
Ouais, c'est ça.
Les enfants, la famille, blablabla.
Blablabla, ouais.
Blablabla. Puis avec tes parents aussi, tu t'entends bien?
Ouais.
Ouais, ok. Donc c'est vraiment avec un de tes frères puis ta sœur, ok. Tu dirais pas que tu t'entends mal avec, tu dirais juste que c'est un peu plus...
C'est compliqué.
Okay.
C'est compliqué, mais en fait, déjà, je me suis pas toujours très bien entendue avec mes deux parents.
Ok, maintenant ça va bien.
Ouais, maintenant ça va bien.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le temps, si je peux demander?
Avant, je m'entendais pas du tout avec ma mère.
Ok.
J'avais une relation très conflictuelle avec elle. Puis, je pense que j'étais aussi vraiment méchante avec elle, comme... Elle était responsable de tous mes maux. Je mettais la faute sur elle pour un oui ou pour un non. Et sinon, je pense que le truc avec mes frères et sœurs, c'est que vu qu'ils sont mes grands frères et sœurs, c'est un peu aussi comme s'ils m'ont élevé. Donc, ils se positionnent un peu comme des parents avec moi.
Ok, comme tu devrais m'écouter, je suis ton aîné, tu devrais savoir qu'est-ce que je sais, c'est mieux que toi, genre un peu.
Exact, okay. Exact. Et comme si, je sais pas, je suis comme sous leur responsabilité ou okay. Je suis un truc à eux ou... voilà.
Ok.
En tout cas, c'est ça que moi je perçois.
Ben, moi je le perçois aussi, comment tu me l'expliques, c'est bien correct. Ben, je dis pas que c'est correct, mais c'est dommage. Non, mais c'est ça, va. C'est dommage. Je trouve ça plate pour toi.
Ouais. Ben, peut-être que ça changera un jour, on sait pas. Hein.
C'est exactement. La relation avec ta mère a changé, là.
C'est ça. En plus, j'aurais jamais cru que ma relation avec ma mère changerait. Puis au final, ça a changé.
C'est super. Alright. C'est ça. Puis j'ai envie d'explorer un autre truc. Ça, t'avais un groupe d'amis boys, de garçons. Puis là, tu voulais prouver plus, ben pas prouver que t'es meilleur qu'eux autres, puis l'équipe, parce que t'es badass, justement. Puis donc là, tu viens de me dire que ta phrase préférée, c'est quoi? C'est que t'es quoi? T'es prête comment? Est-ce que t'es prête, là, justement, à faire le podcast?
Je suis née prête.
T'es née prête, c'est ça. What's up? Hein? Je suis née prête. C'est une bonne phrase, j'avoue. Puis, est-ce que tu montres dans la vie de tous les jours que t'es née prête? Est-ce que comme quand quelqu'un y a un problème, est-ce que tu te lèves et tu dis « What's up? » Tu fais plus ça. Ou quand il y a un conflit, ou quand il y a des... Je sais pas. Est-ce que tu gères bien les situations comme une boss?
Franchement, ouais.
Ouais?
Franchement, ouais. Attends, je suis gelée, là. Il y a un petit bug dans mon cerveau.
Elle est high. Je l'ai fait fumer dans le... Elle est plus autant rap dans la partie de la partie où elle a parlé. Puis elle répond à la question.
Il a proposé un autre joint. J'ai dit, ah, mais je risque d'être trop high pour pouvoir continuer la discussion. Il a dit, oh, bah c'est pas grave ça. Et ben voilà le résultat.
Voilà le résultat. J'ai Marwa sous les effets.
Non, vas-y, repose voir ta question, s'il te plaît.
Non,
ok, tu disais parce que je t'ai dit je suis née prête.
Oui, exactement.
Et tu m'as demandé est-ce que j'avais.
Est-ce que t'agis comme une bosse dans le fond, dans les situations.
Et j'ai dit oui.
Ouais, exactement.
J'ai dit oui.
Et est-ce que tu peux nous donner un exemple?
Bien évidemment.
Merci
mon
beaucoup.
Ami. Je pense que je t'en ai parlé en plus récemment. J'ai comme vraiment compris que j'ai beaucoup d'amour propre.
Ok.
Et je n'aime pas l'injustice.
Okay.
Je n'aime pas qu'on soit injuste envers moi ou envers mes proches ou envers les autres.
Mm-hmm.
Et vraiment, genre, quand il y a cette corde qui est touchée, ça me dit que je suis volcanique. C'est genre un lion qui ressort et qui rugit en moi.
Mm.
Et je suis en mode, là, mon propriétaire...
Ouais.
Je t'ai raconté, j'ai raconté tantôt à Charles qu'on avait l'infestation, blablabla. Là, moi, je suis en train de faire les démarches, en fait, pour qu'on aille tous au tribunal du logement,
mmh.
Pour le forcer, en fait, à prendre en compte tous les travaux et les futurs travaux. Et puis, en fait, je suis trop en colère parce que, comme je disais tout à l'heure, ils profitent des gens qui sont dans une situation de vulnérabilité parce que dans l'immeuble, on est majoritairement des personnes immigrantes. Il y a plein de personnes qui savent ni parler bien français ni bien anglais. Il y a des personnes aussi réfugiées, donc ça vient toucher fort mon... Et même si cet appartement me saoule et que de toute façon j'ai envie de partir, je suis en mode « Non, je vais pas m'arrêter là, tu vas voir
ouais, !» c'est une bonne détermination à avoir parce que justement, personne agit puis le propriétaire agit pas non plus pensant que comme il, ses actions vont aller impunies.
C'est ça.
Tu dises comme « Non, là. »
C'est ça. Et c'est fou parce que, tu sais, comme nous, l'année dernière... C'était la première fois qu'on passait plus d'un an dans un appartement. Et on savait pas comment ça se renouvelait un bail, comment ça se passait les trucs, tu vois. Puis là, janvier était déjà entamé. On avait envoyé le loyer de janvier,
okay.
Sachant que notre bail se finissait en décembre. Puis là, après, on lui dit « Ah, ça marche comment ici ? Est-ce qu'il faut qu'on re-signe quelque chose à chaque année ?» Parce qu'on savait pas.
Hein.
Okay. Et là, il dit « Ah non, c'est automatique. Par contre, maintenant, il nous a augmenté le loyer. Donc, il nous a rajouté $25 dans le loyer. » Et je lui dis « Bah... » Comment ça et tout?
What the fuck?
Et il dit ouais, je vous ai envoyé une lettre par courrier. C'était indiqué, puis c'était écrit que si vous répondez pas, le loyer il augmente, c'est que vous acceptez.
Okay,
et cool. Moi j'ai pas reçu de courriel de la poste en me disant que le courrier est revenu. Donc ça veut dire que vous l'avez reçu. Mais nous on n'a jamais reçu de courrier.
Okay,
tu vois?
Soit il dit de la bullshit, là.
Il disait de la merde.
Okay, ouais,
il disait de la merde. Ouais. Nous, on n'a jamais reçu de courrier. Mais il m'a mis un espèce de doute et j'étais en mode, ok, je sais pas trop comment ça se passe. Bon, c'est aussi Saïd qui m'a calmé, la vérité.
Okay.
Il était en mode, oh, c'est bon, tranquille, c'est que $25, on va pas faire les problèmes maintenant et tout et tout.
Uh-huh.
Donc.
C'est $25 de plus par mois.
Par mois, ouais. Okay. Mais j'ai pas aimé le
mais
fait.
Le principe, c'est pas correct.
C'est ça,
là.
C'est ça.
Parce qu'il dit comment ça se renouvelle automatiquement, puis oh, en passant, je t'ai augmenté de $25 de plus.
C'est ça. Et il dit, oh, c'est ok pour le mois de janvier, mais pour le mois de février,
wow.
Il faudra le faire comme s'il nous faisait une fleur.
Ben ouais, c'est
ça. Oh, c'est ok. Pour le mois de janvier, ah ben merci!
Ouais, j'avoue. Hein.
Tu vois, genre, c'est il a profité de nous
ouais,
parce qu'on ne savait pas comment ça se passait.
Exact.
C'est comme.
Des nouveaux arrivants en arrière.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Ouais. Donc.
C'est donc... sûrement une des grosses raisons pourquoi il y a des cafards en ce moment, parce qu'ils laissent les problèmes, tout là.
Exactement.
Ils ne s'en occupent pas jusqu'à temps que ça devienne vraiment trop énorme et difficile à cacher.
Exactement, parce que là, il peut plus louer aussi les logements. Je t'ai dit, ils ont ouvert la porte de l'appartement des voisins qui ont déménagé.
Okay.
Puis là, des cafards partout, sur tous les murs. Ouh. Je marchais dans le couloir, je faisais attention à où je mettais les pieds, en fait, pour pas en écraser, tellement il y en avait.
T'entends le crunch, crunch.
C'était dégueulasse. J'ai fui.
Ça vole, hein, des cafards, hein. C'est ça, ça se
passe. Non, ça vole pas. Mais ça court vite. Ça court vite. Oh, en plus, c'est résistant.
C'est génial.
On est quand même de nouveau arrivé à l'histoire des cafards.
Ah oui, fallait le mentionner, c'était quand même une grosse histoire là, pareil. Mais c'est ça, parce qu'on en est revenu parce que tu dis que justement l'injustice présente dans cette histoire-là, ben, tu vas pas la laisser impunie dans le fond. Tu vas faire les démarches nécessaires pour que quand même, hey dude, faites quoi là, c'est pas vrai que nous on va payer pour tes niaiseries là, dans le fond.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça a bien du sens.
C'est ça.
Parce que j'avoue, dans ta situation, je me serais plaint, clairement. J'aurais dit, ah, zut de zut, j'aurais trouvé ça de la merde, mais je pense pas que j'aurais fait les démarches nécessaires, même si moi je connais comment faire, j'aurais été comme, je l'aurais laissé couler sur moi. J'étais comme, dude, il va bien faire, tu par la charité de son cœur, comme tout le kit. Mais...
Ouais, mais là aussi, les voisins, bon, il y a une personne québécoise et tout, mais tu vois, par exemple, on a un voisin, il parle ni français ni anglais, lui, s'il n'y a pas quelqu'un qui mène le truc, jamais il va le faire.
Ouais, j'avoue.
En plus, déjà, il galère, et moi, dans l'immeuble, j'ai les capacités en fait de faire les actions, donc je me dis, ouais... J'ai un peu aussi cette responsabilité-là, en fait, parce que les autres ne peuvent pas le faire. Donc, moi, pas le faire, c'est accepter qu'on fasse ça aussi aux autres, genre.
Okay,
c'est comme si je laisse faire, genre.
Wow, réfléchir à ça, ça fait peur. C'est comme, holy shit, donc, comme tu réalises que tes actions peuvent avoir un impact plus gros que juste à ta personne dans ce temps-là. Là.
Ouais.
Oh, ça, c'est, quand tu m'as fait réaliser ça, ça m'a fait capoter un peu dans le sens que, OK. Voilà, je comprends que ouais, moi aussi, peut-être que je ferais
ouais. En plus, il y a des familles. Franchement, ça m'a tellement fait de la peine. J'ai vu un voisin. Et ce qui était beau aussi dans cette situation, malgré tout, c'est que ça a créé une espèce de solidarité aussi entre les voisins. Genre, on a fait un groupe WhatsApp. On s'est parlé lundi, on se croisait. Puis, j'ai trouvé ça beau aussi parce que je parlais en espagnol avec notre voisine de... palier entre guillemets, enfin celle qui est en face de nous au balcon. Mm-hmm. J'ai parlé en français avec un autre voisin. J'ai parlé en arabe algérien avec l'exterminateur et c'était vraiment genre un truc multiculturel.
Oh, wow.
Genre on est tous ensemble dans une galère et on se soutient et on va passer ça, tu vois.
Okay.
Du coup, j'étais comme, oh, c'est ça, c'était un beau moment.
Ouais, j'avoue. Dans l'adversité, vous vous soutenez les coups.
C'est ça. C'est ça. Yes. Puis t'en avais un des voisins, par exemple, il a deux enfants, 8 ans et 14 ans. Puis là, genre, en après-midi, fallait qu'il se trouve ailleurs où dormir pour lui et ses enfants parce qu'ils étaient trop jeunes, en fait, pour y aller, y retourner dans l'appartement juste au bout de 8 heures.
À cause des odeurs des...
C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est chimique et toxique ce qu'ils mettent, c'est tu vois.
Fort. Puis vous, tous vos trucs, vous les laissez dans l'appartement quand même, c'est ça?
Ben, c'est qu'on a tout vidé, mis dans des sacs.
Hermétiques.
Ouais, c'est ça. Donc, c'était une grosse préparation. Et ouais, donc le gars, il a dû chercher une solution où dormir pour la santé de ses enfants. Et il n'a pas de famille à Montréal.
Ah, ben,
c'est une personne immigrante aussi qui est là depuis pas très longtemps.
J'avoue.
Tu vois.
Il a dormi dans les parcs, qu'est-ce qu'il fait?
Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au final. Bon, mais tu vois, c'est genre... Trop de... Ouais.
Non. C'est pas juste seulement le temps, le monétaire, mais c'est le temps... les complications, le besoin, puis comme c'est ça, qui a pu être évité, puis ça a été géré mieux.
Le stress aussi, franchement. Ouais, moi je t'ai dit mardi après, je sentais que j'avais la tête pleine, je suis allée au travail. J'étais pas capable de réfléchir, j'étais pas capable de suivre une conversation. Surchargée.
Ok, si t'avais juste ça à la tête, moi je comprends. Bon, c'est fou.
Trop de fatigue en fait.
Ouais. Mais là, tu vas en vacances, puis ça va te permettre de penser un peu à c'est quoi ton plus grand rêve? C'est quoi ton plus grand rêve?
Mon plus grand rêve?
Ou ton plus grand objectif, c'est comme que t'aimerais réaliser comment j'ai besoin de faire. Pas j'ai besoin, je devrais pas dire ça. Le Je devrais dire des non plus.
Franchement,
une
juste.
Une ambition, je pense. Que
juste kiffer ma vie.
Kiffer ta vie?
Ouais.
Mais là, tu la kiffes pas en ce moment?
Si,
kiffes,
si, mais.
Continue.
Il faut continuer à nourrir, en fait, cette intention-là.
Ok, ok. Donc, tu pimentes ta vie pour continuer à la kiffer, dans le fond.
Pas la pimenter, mais. Accepter d'évoluer, accepter de se laisser emporter par ce qui vient. Je dis ça, moi, je suis une personne assez rigide. J'aime pas trop le changement, on dirait. Genre, quand il y a quelque chose qui change, ça me fait paniquer. Parce que qu'est-ce qui vient? Ah, je sais pas. Mmh. Et donc, j'ai peur de cet inconnu-là. Et là, je me dis, ouais, j'aimerais genre juste prendre les choses comme elles viennent au lieu de overthink et de stresser et de tout de suite imaginer quelque chose de négatif.
Ok, ok.
Donc ouais, plus ouais, kiffer et se laisser emporter. J'aimerais bien arriver à là.
Ok, ok. Constamment dans à l'aise, peu importe les situations dans le fond, un petit peu. Comme disons que là, un changement brusque arrive, comme boum, l'appartement d'à côté de nous, ce qu'on enregistre, prend en feu. On se dit, comment est-ce que ça te ferait paniquer? Holy shit, ben moi, ça ferait paniquer techniquement un feu, là, mais mauvais exemple.
Ben, plus, par exemple...
Vas-y donc.
Petit exemple.
Vas-y,
là,
j'ai besoin d'aide.
Avec la situation,
ouais.
C'est que ben, Saïd, il me dit, vas-y, on déménage et tout. Et moi, je suis en mode, oh, on déménage? J'avais pas prévu ce changement. Ah, ça se trouve, on va quitter Montréal. On va. Ouais, et il faudra qu'on prenne une voiture et que je mettrai combien de temps pour aller au travail. Et, tu
okay,
vois,
okay, okay, voilà,
ça.
Je vois.
Être plus confiant, genre, que tout de suite imaginer des trucs chiants ou difficiles et résister. Mais I guess que ça fait partie aussi du process d'avoir ce moment de résistance.
J'avoue, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'avoue que je suis un peu comme ça. Il faut me préparer mentalement. Si tu me prépares mentalement, comme, OK, dans 2 semaines, tu vas déménager. OK, il n'y a pas de problème, je suis préparé mentalement. Mais si ça arrive, comme tu dis, du jour au lendemain,
ouais.
Comme, là, il y a la panique, tout ça. Ouais,
ouais c'est ça, mais... Ouais, donc j'aimerais bien...
Kiffer le moment.
Ouais, kiffer avoir cette fluidité-là. Puis tu vois, je le vois aussi que en ayant commencé vraiment le travail à temps plein, etc., je sens que je rêve moins. Je vois plus, en fait, de...
La compagnie a tué tes rêves, c'est ça? La bureaucratie a amenuisé ton instinct de...
C'est que... Vu que je suis dans une situation confortable, et c'est comme si en étant... au travail, en étant dans ce mode de vie-là, il devient tout à fait normal, et c'est comme ça, et que j'imagine moins, en fait, d'autres choses, d'autres façons, d'autres...
possibilités.
C'est ça, d'autres possibilités. Et ça, j'ai vraiment peur d'arrêter de rêver.
Ah, pour elle, c'est une de tes craintes, ça?
Ouais, okay. Ouais, parce que je l'ai vraiment senti là en commençant à travailler que je voyais plus les contraintes dans les choses, dans les projets. Tu sais, par exemple, moi, j'aime beaucoup l'idée de pas être tout le temps, toute l'année au travail, dans travailler d'une certaine manière dans un endroit. Je veux me dire, vas-y, j'ai envie d'aller vivre là un an. Au Pérou, et connaître la culture locale, et connaître la vie là-bas, et arrêter complètement le travail que j'étais en train de faire, et puis après, si je veux revenir, je reviens, est-ce que je veux faire exactement le même travail ou un autre, je sais pas, mais pas m'enfermer, en fait, dans les choses.
Okay, ouais,
et je sens qu'avec le travail...
Actuel que t'as?
Ouais, tu sais, c'est genre... C'est un confort, en fait. Tu gagnes du confort et après, t'as peur de le quitter et
ouais,
tu t'installes dans une espèce de... Je sais pas, une bulle dans laquelle tu te sens confortable.
Ouais,
c'est et
ça.
C'est ça.
T'es en sécurité aussi.
C'est ça.
Tu sais quand économiquement, t'es correct, t'as une garantie d'emploi, t'as un horaire tout le temps au quotidien, t'as une routine aussi qui s'installe.
C'est très correct.
Ouais,
c'est très correct.
Comme ça.
Absolument, et c'est totalement valable. Mais c'est juste que moi, la manière dont je le vis, dont je me vis, dont je vis ma présence même sur Terre, j'ai envie d'imaginer des choses que je pense au début peut-être pas possible, et au final, allez, on va explorer, on va voir.
Non, j'avoue, c'est
Même
clair.
si, tu sais, on a fait un voyage en van, par exemple, de 5 mois.
Ok, ouais.
C'était genre quelque chose que je voulais faire,
Ok.
mais qu'au fond de moi, je croyais, un jour peut-être.
Ok.
Tu vois?
C'était vraiment un rêve. C'était pas un futur. Tu voyais pas ça vraiment dans un futur proche,
Je
possible.
l'imaginais pas comme vraiment concret, possible. Ouais, on peut faire ça.
Ok, ouais. Wow. Puis tu l'as. Mais dans le fond, là, pour que les auditeurs le sachent, dans le fond, tu parles que t'es parti voyager 5 mois avec Saïn dans un van, c'est ça? Puis
Ouais.
t'as pas fait juste le Canada. T'as fait le Canada, le Mexique, les États-Unis, tout et
Non,
tout, ça?
on est parti en fait avec notre chat
Ok.
qu'on avait à ce moment-là. D'ailleurs, même pour la petite histoire, pour remonter avant ça, on voulait quitter la ville. On voulait partir. On avait réservé une espèce de petite cabane au milieu de la forêt en Alberta. Et la
Ok.
ville la plus proche, ou le village le plus proche, il était à 30 km.
Ok.
C'était vraiment un truc au milieu de la forêt et tout. On avait réservé ça. On voulait partir là. Et en fait, on a rencontré notre chat qu'on avait avant. Mowgli.
Ok, c'est un chat que vous avez adopté durant votre voyage de 5 mois.
Non, avant
Non.
qu'on parte en voyage.
Ok, vous
On
êtes.
était allé faire un chalet comme ça.
Ok.
Et il y avait Mowgli en fait à ce chalet-là et on l'a adopté.
Ok.
Et donc, vu qu'on a adopté Mowgli, on a écrit à la dame qui louait la petite cabane en lui disant, ah, maintenant on a un chat, est-ce que c'est correct? Et
Ok.
là, elle a dit, non, je prends pas les animaux, là là là, là là là. Et là, je me suis dit, on s'est regardé, on s'est dit, il y a personne qui va nous dire où on peut aller, ce qu'on va faire et tout. Tant pis, on change le plan, on va prendre un van, on va aller où on veut et Mowgli va venir avec nous.
Ok.
Et c'est comme ça que du coup, c'est ça qui m'a donné l'espèce de force
Ok, ouais.
d'enclencher le truc parce que je me voyais pas faire un truc et laisser Mowgli, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on a fait le voyage de 5 mois. Je rêvais toujours d'aller en Alaska.
Ah ouais, bah ça doit être beau
Mais c'est le
l'Alaska, ouais.
genre de truc, je croyais pas que j'allais le faire, tu vois.
Ok.
On est allé en Alaska. Avec le van, alors
Ah,
qu'on
pour
était,
vrai?
on était persuadé qu'il tiendrait pas. On l'a appelé Sky parce qu'on a dit Sky is the limit, tu vois.
Ah, nice,
Donc quand
nice.
il va s'arrêter, le voyage va s'arrêter.
Je comprends, c'est la limite. Ok, ah, c'est bien pensé. Puis il s'est rendu jusqu'à où finalement, Sky?
On est allé jusqu'en Alaska en passant par les États-Unis.
Ok.
Ensuite, on est revenu et on a longé toute la côte ouest jusqu'à proche de la frontière du Mexique.
Ok.
Et après, de là, on est remonté à Montréal, mais en passant par le bas. Donc, on a fait Nouveau-Mexique, on est remonté après par l'État de New York, Pennsylvanie, jusqu'à
Ok.
revenir à Montréal. Si je m'étais empêchée de rêver et d'imaginer de j'ai envie de faire ce truc-là, je les aurais pas fait.
Ouais, j'avoue. Mais c'est aussi, comme tu dis, c'est le fait aussi que la madame a dit, j'en veux pas de ton chat dans mon chalet.
Oui,
Genre
c'est
comme,
sûr.
ah, ok, je veux pas qu'on me dise quoi faire. Donc, allez, mais quand même, ta réaction, j'avoue, qui est un peu plus forte que la normale, je dirais. Parce que là, peut-être la normale serait comme, ok, on va trouver un autre chalet qui accepte les animaux, tu sais. Mais vous, vous êtes dit comme, non, on va acheter un van et on part à la grosse aventure de
Parce qu'on
solution
voulait le
rapide.
faire en
C'est ça,
vrai.
voilà, c'est ça.
On voulait le faire en vrai. Mais là, il
Ok.
y avait un élément supplémentaire.
Qui motivait à aller vers ça, je comprends.
Ouais. Et c'est marrant qu'on parle. Enfin.
Vas-y.
totalement hasard, je sais pas.
Vas-y, ok.
Mais on parle là du voyage et du fait qu'on est parti avec notre chat Mowgli. Tantôt, on a parlé en fait de la vie après la mort et je t'ai dit que j'ai changé ma vision par rapport à ça et qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de la mort.
Ouais.
Ce qui m'a fait changer de vision et de perception, c'est qu'on a perdu Mowgli pendant notre voyage.
Ok.
Et en fait, on avait fait plus de la moitié du voyage. On était vraiment dans la partie 2 qui tranquillement nous ramenait vers Montréal. Et c'est là qu'on l'a perdue. On était proche de Seattle.
Oh, ouais.
On s'est égaré une nuit dans une zone résidentielle. Et puis moi, toute contente, « Ah, c'est cool, ça va être safe pour Mowgli, il n'y a pas trop de voitures, il y a un petit parc, etc. etc. » Et au final, on l'a perdue.
Parce que lui, il se promenait dans le parc tout seul. Il n'était pas en laisse, vu que c'était un chat. Il était à...
Oui, il sortait.
Libre, c'est ça? Okay.
Ouais, il sortait et puis il revenait. Donc le soir, il sort, il revient dans la nuit, il dort avec nous jusqu'à 4h du matin. Il sort à 8h du matin, il n'était pas là, on a commencé à le chercher. Et on ne l'a jamais retrouvé. Et on a appris après que, enfin le lendemain, c'était pas un parc à côté de quoi on était garé, c'était une forêt. Mais ça s'appelait genre parc, parce que je sais pas, hein.
Pourquoi pas donner un nom à une forêt aussi... Attends, je sais pas quoi dire. J'avoue que c'est juste... Trop ça me rend trop confus comme ça.
Ouais, vraiment. C'est et on a appris qu'il y avait plein de coyotes dans la région.
Ah.
Donc on a très vite compris qu'il s'était fait attraper par un coyote. Et en plus, on a trouvé des cacas de coyotes, tu vois.
Pas très loin dans les environs.
Pas très loin, c'est ça. Mmh. Et on l'a cherché. On était supposé juste passer la nuit là-bas. On l'a cherché pendant 10 jours. Introuvable.
Vous êtes resté au même spot pendant 10 jours pour essayer de le trouver.
Ouais.
Quand même, 10 jours, respect. Vous n'avez pas abandonné, tu sais.
Non, vraiment. Mais nous, on était détruits.
Pendant les 10 jours, vous étiez en deuil aussi un peu, j'imagine.
Absolument.
Vous avez dit votre idée qui est comme... À quel jour tu t'es dit comme, OK, Mowgli, il est mort?
Ben,
tu as dit que c'est resté jusqu'à 10 jours. Donc je pense que c'est pas au 10e jour que vous êtes prêt à partir, tu comprends? Il y a eu une réalisation peut-être au 7e jour, comme OK, il est peut-être, tu sais, que vous parlez ensemble dans la van, dans la soirée, puis comme OK, on a cherché par là, on a cherché là, on le trouve pas.
Je pense 3e jour. Je pense 3e jour.
Holy shit, donc on peut réaliser assez vite, mais vous vouliez pas abandonner au cas où.
Je voulais pas y croire, en fait. Je voulais, parce qu'il revenait tout le temps, puis tu sais, tu l'appelais, il se reconnaissait. On a commencé à le chercher à 8h du matin, s'il te plaît. Tellement, genre, c'était pas normal. Donc, 3e jour, il était toujours parvenu. Je me suis dit, ouais, mais je voulais pas y croire.
Ouais, je comprends.
Et donc, cette expérience, en fait, de la perte de Mowgli, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup, beaucoup affectée. Et ça m'a fait vivre... un deuil, vraiment, j'aurais pas cru, en fait, que je vivrais ça. Et j'étais déprimée, j'étais tellement triste, vraiment, j'avais plus goût à rien et tout et tout. Et j'ai lu un livre que mon père m'avait offert quand j'étais plus jeune et que j'avais jamais ouvert. Dans le fond, c'est un livre de poésie qui s'appelle « Le prophète » de Khalil Gibran. Et dans le fond, il y a plusieurs poèmes différents. Ça dit par exemple « Et parle-nous de l'amour ». Et là, il y a un poème sur l'amour. « Et parle-nous de la famille », etc. etc. Et en lisant ça, ça m'a vraiment fait quelque chose parce qu'il parle de la joie et de l'amour et de la tristesse.
Okay.
Et
c'est ça.
Je t'ai dit que des fois je peux aller très longtemps.
C'est parti, là, c'est parfait.
Il parle de la joie, de l'amour et de la tristesse. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que la douleur et la peine que je ressentais liée à la perte de Mowgli, c'était que le reflet de l'amour que je lui ai porté et que je lui porte, en fait, et de la joie que j'ai eue en sa compagnie, tu vois.
Ok, donc, pourquoi t'es triste? C'est parce que tu l'as beaucoup aimé et il t'a apporté beaucoup de joie, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Rendu ça simple pour moi, là?
Ouais, c'est ça. Okay, okay. C'est ça.
Ok.
C'est ça. C'est qu'en fait, je suis si triste parce que j'ai autant d'amour.
J'essaie de comprendre, juste comme je comprends
pas. S'il y a une personne qui décède, mais que t'as pas vraiment de relation avec cette personne, tu vas pas être triste.
Non.
Si t'es triste quand une personne décède. C'est que t'as quelque chose qui te lie avec elle, à elle. T'as un amour, t'as quelque chose qui fait que t'es triste. Elle fait émerger quelque chose chez toi, cette personne, tu vois. Et donc, dans mon cas, avec Mowgli, ce que j'ai ressenti, c'est que cette douleur que je ressentais était vraiment, en fait, aussi profond, en fait, que l'amour que je lui portais, tu vois. Puis, c'est aussi comme, waouh, comme j'ai eu la chance de vivre ça avec un chat. Waouh, j'ai eu tout ça, tu sais. Il peut pas y avoir, en fait, aussi toute cette joie, tout ce bonheur sans la tristesse et sans la douleur, parce que sinon, ça aurait pas de sens, en fait.
Pourquoi? Pourquoi tu pourrais juste être heureux puis pas être triste? Éviter la tristesse?
Si la joie n'existe pas et la tristesse n'existe pas, qu'est-ce qui existe? C'est que ça veut rien dire.
Mais y a-t-il quelque chose qui existe entre les deux? T'sais, entre la joie puis la tristesse? Juste la neutralité? Tu peux pas être juste neutre? Juste comme être...
Non, mais je veux dire dans le...
Juste...
Oui, mais ce moment de calme, en fait, comme tu montres avec ta main, Charles, qui parle aussi avec...
avec les
gestes. tu es capable aussi de l'expérimenter parce que tu as expérimenté d'autres états. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est quoi, genre, s'il n'y a rien?
Pas la vie sur Terre, tu penses, s'il n'y a rien?
Bah, c'est comme on dit, on peut pas avoir d'arc-en-ciel sans la pluie.
Okay, okay.
Tu vois?
Ah, okay.
C'est pas, déjà, il n'y a pas un truc qui est une bonne chose et l'autre qui est une mauvaise chose.
Mm-hmm.
La tristesse, c'est une bonne chose. Ben comme la joie, c'est une bonne chose aussi, tu vois?
Ouais, je comprends. Puis la joie peut être une mauvaise chose comme la tristesse peut être une mauvaise chose, c'est ça?
C'est ça.
Les deux sont pas autant
c'est
bon
ça. Il n'y a pas un sentiment ou une émotion qui est plus juste que l'autre ou plus valable d'être vécue.
Exact, exact. Ok, intéressant.
Voilà, donc je parlais de...
Non, c'était super intéressant, j'ai aimé ça.
De la perte de mon chat.
J'ai dit super intéressant, j'ai aimé ça. Comment j'ai aimé ça t'entendre parler de la perte. Non, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. C'est plus comme que tu trouves à nous, c'était vraiment intéressant. Mais puis que aussi que tu as découvert des leçons à travers cette perte-là.
Et c'est ce qui m'a fait aussi changer, enfin c'est ce qui a contribué au fait que je change de vision sur l'après-mort.
Ok. Parce que c'est quoi maintenant ta nouvelle vision de l'après-mort? Avant c'était quand même un enfer ou...
Avant c'était la fin.
La fin.
La fin, c'est fini. Alors que maintenant c'est le début d'autre chose.
Ouh, c'est excitant. C'est mystérieux. Puis tu te donnes... Est-ce que tu te permets de t'imaginer c'est quoi le... un autre commencement ou tu te laisses le plaisir de le découvrir rendu là?
Ben, je sais pas en fait. Oui, je peux imaginer des choses des fois, mais...
Tu t'imagines que tu vas te réincarner, tu t'imagines que tu vas devenir un astre dans la Voie lactée?
Non, franchement, je sais pas.
C'est ça, moi non plus, je sais pas.
Je sais pas, mais je m'imagine que c'est le début d'autre chose. Puis, tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure sur ma crainte du changement et mon côté un peu rigide. Ben, le changement, ça fait partie de
la vie.
De la vie.
Ouais.
Ça fait... C'est ça, donc autant le recevoir, en fait, d'une certaine manière plutôt que tout de suite le voir très négativement et en avoir peur et tout de suite imaginer des choses mal.
Ok, c'est intéressant, voilà. Non, t'as raison.
Parce que moi, j'ai tendance à faire ça.
Ouais.
M'imaginer toujours des trucs catastrophiques.
Ah, tu vois, moi, je suis à poser de ta personnalité, OK? Je suis à poser de ta personne. Dans le fond, pour rendre ça simple, l'expression que je dirais, c'est que tu vois le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est ça. Ça dépend des situations et des contextes, après.
OK, OK. Mais t'es souvent dans le point... Ben, I guess c'est bon, parce qu'au moins, peut-être que tu... Est-ce que tu dirais que ça te permet de te mettre plus facilement dans les pieds de quelqu'un d'autre, dans les souliers de quelqu'un d'autre? Parce que ça, j'ai trouvé que t'as cette qualité-là, tu étais capable de faire une introspection de toi-même, mais aussi de regarder comme, OK, de te mettre dans la situation de quelqu'un d'autre pour en pâtir, puis compatir, puis tout ça. Puis, ben, est-ce que ça, ta rigidité tout seul te le permet ou...
Je sais pas si c'est vraiment lié. Mais tu vois, c'est ça aussi, j'ai ce côté rigide, mais il est contextuel, je pense, à certains types de situations que je saurais pas te nommer.
Okay, okay.
Dans d'autres situations, je vais être au contraire super fluide, super partante. Regarde, en vrai, je suis venue vivre au Canada à l'âge de 22 ans.
22 ans.
J'ai changé comme ça de pays, de continent.
Puis là, si vous pouvez voir la face à Marouette, elle est comme, elle me dit avec son visage comme, regarde Charles, c'est impressionnant. J'ai fait ça.
Non, mais...
Je suis badass. 22 ans, gros.
Ouais, ben oui, hein.
Non, mais c'est vrai, parce que c'est bien, 22 ans, là, pas juste déménager dans un appartement, tu sais, ça, c'est que tu te vois changer, déménager de pays, là, c'est vraiment impressionnant.
Ouais. Et même avant ça, bah, c'est des gros changements, tu vois,
ben
que
oui,
je suis aussi...
Là, tu deviens adulte, mais comme dans un pays lointain où ce que t'as personne pour t'aider, alors c'est comme... Oh.
Ouais.
J'avoue, hein. Enfin, t'étais déjà responsable à cet âge-là ou tu t'es responsabilisé assez vite, merci, une fois que t'as emménagé ici?
Non, j'étais déjà responsable.
Tu t'es posé la question, mais je suis comme... Ah, je l'ai déjà posé, je connais déjà la réponse, mais je vais la poser quand même.
Non, mais je vivais déjà seule, je suis allée vivre aussi toute... Ouais,
tu
je suis allée vivre aussi toute seule avant à Madrid. Quand je t'ai dit, j'ai fait des études là-bas.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais.
Mais tout seul, mais t'étais pas avec une cohorte ou dans un dortoir ou des affaires comme ça, tu sais?
Non.
Tu vivais en appartement là-bas?
Ouais, je vivais en appartement.
À Madrid?
Oh là là, j'avais quel âge? Écoute, je vais te dire, je vivais en appartement de mes... Peut-être 20... À partir de mes 20 ans.
Ok.
19 ans, à partir de mes 19 ans.
Ok. Parce que la façon que je l'expliquais, je pensais que tu étais à étudier à Madrid genre à 15-16 ans.
Non.
Ok, ok. Donc, durant ta vingtaine, déjà, tu étais habitué à vivre en appartement. Donc, 22 ans ici, c'était pas si différent que 20 ans à Madrid, genre. C'était pas si différent.
Non, mais il y a quand même plein de choses différentes. Okay. Déjà, au niveau du système, encore aujourd'hui, je suis perdue. De, oh, qu'est-ce qu'il faut faire, comment... je sais pas, moi.
Ici au Canada?
Ouais, les trucs administratifs.
J'avoue que l'administration, la bureaucratie, c'est pas toujours facile.
Vas-y, t'as une voiture, faut que tu renouvelles un truc chaque année, il faut que tu y penses tout seul. T'as, je sais pas quoi, que tu dois faire aussi.
Oui, il y a plein de... Ben, les cartes d'assurance maladie.
Ouais, tous ces trucs-là. Tu vas chez le médecin, t'as du stress, tu sais pas ce que tu vas être remboursé ou non. T'essayes d'avoir un rendez-vous, tu galères. Je pense que ça fait au moins 2 ans et demi que je suis en liste d'attente pour avoir un médecin de famille.
2 ans et demi, c'est rien.
Ouais, je sais.
Apparemment, tu peux attendre beaucoup.
Je sais.
Ça,
ouais, mais c'est fou, tu vois.
Ouais. J'avoue. Mais là, j'en ai un médecin de famille, puis moi, j'ai appris que si tu vas pas le voir après 5 ans, là, tu le perds. Donc, je suis comme, oh, il faut quand même que je me trouve une raison d'aller le voir, parce que là, je pense que ça fait quoi, 4 ans que je l'ai pas eu. Donc, je vais me trouver une maladie ou je sais pas quoi pour aller.
C'est fou quand même.
Parce que vous autres, sinon, il va remplir la case pour quelqu'un qui en a vraiment besoin, tu sais.
Non, c'est fou. Ouais, mais en même temps, le médecin, tu sais pas quand tu vas en avoir besoin.
Non, c'est ça.
Et quand t'en as besoin, ben là, t'attends pendant des années pour en avoir un.
Ouais, le système est bien fait. Il marche. Parce que le but, c'était pas de vous guérir, là, c'est de vous rendre.
Mais...
continuer à vous garder malade. Non, c'est pas vrai.
En plus, je pense pas qu'il fait son quota de patients en fonction du nombre de patients qu'il a, mais en fonction du nombre d'heures, en fait, qui passent. Parce qu'il pourrait avoir, genre, je sais pas moi, 20 patients, il sait qu'il y en a 10 qui viennent pas souvent, il peut en prendre plus. Bref, t'as compris quoi?
Ouais, non, je comprends. C'est ça. C'est vrai. Il y a peut-être, c'est peut-être ça qu'il fait aussi. Donc, il me garde, puis il va pas me jeter parce qu'il va juste en prendre plus, puis il sait que moi, je viens pas souvent.
C'est ça.
Jusqu'à date, ouais.
C'est ça.
J'avoue.
En tout cas, je trouve ça plus logique. Après, je sais pas. Hein.
Ouais, après, on sait pas. Peut-être que il invente des faux clés, des faux patients pour taxer plus ouvertement, qui sait. Tu ferais des choses comme ça, tu sais, avec ta job, là, maintenant de l'équité, t'as un certain pouvoir, donc tu te dis comme...
J'ai aucun pouvoir.
T'as pas de pouvoir décisionnel sur le budget, il va où?
Rien du tout.
Ah,
j'ai aucun... Je suis un pion. Je suis un pion.
Wow. Ok. C'est pour ça que tu voulais dire tantôt aussi que t'étais une goutte d'eau, c'est qu'il n'y a pas grand changement qui va se...
Ben,
t'es vraiment
oui.
Un pion. Tu suis les directives, t'as pas de pouvoir.
Ben... Oui, j'ai pas de pouvoir. Oui, bien sûr.
Ben, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Ça me rend pas heureux que tu l'admettes, là. Moi, je suis un peu déçu, même. Je suis comme... Colin,
j'ai un petit pouvoir d'influence, genre.
Okay.
En mode, si je fais bien ma job...
Ok.
Oui, c'est en ce sens-là, genre. Je suis un agent de changement. Comme on
Avec
dit.
la petite voix comme je vais vraiment réussir. Ah, c'est drôle. Mais ok, mais au pire, c'est comme dans les. Tu pourrais être comme la personne qui crie dans. Pas qui crie, pardon, qui soupire, qui chuchote des mots à l'oreille du boss et puis qui t'écoute, exemple. Tu pourrais être le bras droit du boss, peux-tu être ça? Ou il faut un il faudrait que tu sois vice-président pour pouvoir faire ça, pour chuchoter un boss comme hey, Montmorency mériterait plus de budget que Côte Vertu, exemple.
Ah, mais moi, de toute façon, je dis pas ce qu'il devrait faire,
Ah
en
non, tu verras
fait.
jamais.
C'est ça aussi que je trouve intéressant. Je dis pas ce qu'il devrait faire.
C'est quoi que tu faisais?
J'explique pourquoi c'est important.
Ah, pour vrai? Donc,
Ouais.
t'expliques,
J'explique pourquoi c'est important. Moi, ce
ok.
que j'essaye de faire,
Ouais.
c'est d'amener tranquillement un changement de posture, en fait, chez
Ok.
les autres personnes. Comme
Ah.
ça, elles comprennent pourquoi c'est important. Et
Oh.
comme ça, elles utilisent ou elles prennent en compte l'équité dans les réflexions.
Ok, donc tu expliques, tu informes, tu apprends, tu enseignes dans le fond. Puis là, comme ça, là, c'est peut-être que ça aide les gens à comme. C'est comme ça que tu lis, toi, par l'apprentissage. Puis ils vont peut-être me dire, ah, oh, ok, c'est vrai, je devrais agir ainsi au lieu avec les gens défavorisés ou quoi que ce soit.
Il y a différents canaux.
Cano?
Ouais, il y a
Ok.
différentes manières. Il y a ça, ce que je viens de te dire.
Ok.
Il y a aussi d'un point de vue, déjà le fait d'avoir des données. En
T'aimes ça
fait,
les données, toi?
ben ouais, j'aime bien quand
Ouais.
même. Ça oblige en fait la prise d'action. En fait, ça oblige à ben, les chiffres, ils sont là,
Ils vendent
ils
quoi?
sont accessibles à tout le public. Tu sais que les quartiers qui sont les plus en galère, c'est ici. Ben pourquoi tu mets pas ici? Tu vois, ça donne des, ça
Des
donne
raisons.
aussi des, ça force à justifier,
Ah,
tu
ok.
vois.
Pourquoi t'as dépensé l'argent là?
C'est
Ah, pour
ça.
telle raison, parce qu'ils sont plus pauvres là, ou parce qu'il y avait une route de brisée là-bas, blablabla. Ok.
Ouais, c'est ça. Ça force à justifier, donc ça c'est intéressant aussi. Et l'autre façon, c'est de mettre, parce que quand tu es dans une bureaucratie aussi, il faut que tu utilises les moyens de la bureaucratie ou ses outils à elle. Donc c'est aussi de passer par, c'est quoi que tu dois prendre en compte quand tu veux faire un projet. Et que tu remplis les papiers administratifs pour monter ce projet.
Ok,
Okay. Ah ben maintenant, il faut que tu tiennes compte de l'équité.
ok. L'équité des choses, ok. Eh
Donc voilà.
bien. Non, ben, qu'est-ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on demande à notre invité ou tout, quoi que ce soit de nous dire sa chanson de la semaine. Est-ce que tu as une chanson de la semaine pour nous, Marwa?
Écoute, la chanson qui me vient à l'esprit. C'est Canción sin miedo. C'est pas ma chanson de la semaine, je pense que c'est juste genre une de mes chansons préférées.
Ok, mais
Et
sans
je l'ai tout
changement.
le temps. Chanson sans peur, ça veut dire.
Chanson sympa. Ok,
Ouais. Et l'artiste, moi j'oublie tout le temps les noms d'artistes.
ouais. Ouais, c'est pas plus grave.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas.
hermanas destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta.
Todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor.
All right. Bon, merci beaucoup d'être venu à l'épisode, c'est bien apprécié.
Ben, ça fait plaisir.
C'était bien intéressant.
C'est très apprécié de se faire inviter pour... Ouais.
Comment t'as trouvé l'expérience?
Écoute, très sympathique, comme je disais tout à l'heure, sympathique de voir aussi le derrière de la scène. Alors, je vous dis tout. Aujourd'hui, on balance les secrets.
Il n'y a aucun secret, il n'y a aucun secret.
Alors Charles, il est assis sur une chaise de camping.
Non, je suis assis sur un tronc. Je te corrige, là. Mais bon, alors, merci beaucoup d'être venu. Puis, merci beaucoup, auditeurs. À la prochaine. Bye bye.